93.2 FM. Et on se retrouve pour une interview. Donc, l'interview de Solo Solo. Alors, depuis combien de temps vous faites de la radio ? Bonjour.
Bonjour. Oula, attendez, je ne suis pas fort dans en arithmétique. Et on va dire à partir 1984 aujourd'hui, ça fait quoi ? 34 ans. D'accord. Voilà. 34 ans. Ça fait 34 ans, depuis 34 ans que je fais de la radio. Mais d'abord dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et puis depuis 2003, je suis venu m'installer en France et je continue à faire de la radio.
D'accord.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste, de faire de la radio ?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la radio ? Ce serait une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. Et je veux dire, la première raison, c'est parce que la première fois que j'ai vu un poste radio, ça m'a fasciné, intrigué, interpellé, séduit, etc., etc. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire où je suis né, donc à 750 km de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan, c'est là où mon père, qui était commerçant, allait acheter des marchandises pour revenir dans le nord de la Côte d'Ivoire pour les revendre. Donc il avait une espèce de bazar où tu trouvais tout, des stylos à billes, des cahiers de leçons, des pièces détachées de vélo, excusez-moi, je dis des terniers, et du savon, bref, c'est un vrai bazar. Bref, et une année, mon père est arrivé avec un poste de radio de la capitale. Et les postes de radio à l'époque, ce n'était pas le petit portable comme vous pouvez le tenir dans la paume d'une main. C'était un vrai meuble, genre, pour donner un ordre d'idée, longueur presque un mètre, largeur 50 cm et profondeur 50 cm. Vous voyez un peu le genre, une vraie caisse. Et l'alimentation de la radio, c'était une espèce de batterie, comme une batterie de véhicule, qu'on mettait à l'extérieur, qu'on branchait sur la radio. Et pour capter les ondes, on tendait un fil métallique, je pense du cuivre, qui était en spirale, qu'on étendait d'un point à un autre. Et plus cette spirale était longue, plus la qualité d'écoute était meilleure. Et on branchait le fil électrique sur ce cuivre, qu'on branchait sur la batterie, qu'on rebranchait sur la radio, et on pouvait entendre parler la personne qui est là-dedans. Pourquoi ça m'a intrigué ? Pour moi, c'était un être vivant qui était dans cette boîte et qui nous parlait le matin quand mon père ouvrait la radio, le midi quand je reviens de l'école, il est toujours en train de parler. Le soir à 17h, je reviens de l'école, il est toujours en parler. Et je demandais à ma grand-mère, mais est-ce qu'il est sorti pour manger ? Et ma grand-mère qui dit, non, je ne l'ai pas vu. Mais tu sais, quand tu es parti à l'école, à un moment donné, il s'est tu. Et ce n'est que vers, quand on s'approchait de midi, qu'il a commencé à reparler. Et à l'heure de la prière de l'après-midi, il s'est encore tu. Et au moment où le soleil a commencé à s'incliner, c'est-à-dire vers 17h, il a commencé à reparler. Mais ma grand-mère aussi n'avait pas remarqué qu'effectivement, la radio ne parlait que 3 heures le matin, 3 heures à la mi-journée et 3 heures le soir. Et que c'est mon père qui appuyait un bouton et tournait une molette et on sentait que ça traversait les ondes. Et c'était les ondes courtes et les ondes moyennes. Ce n'était pas la FM avec un son clair aujourd'hui. Donc on entendait ce qu'on appelle dans le langage de la radio de la friture. Ça fait « ici Abidjan, Radio Côte d'Ivoire. Ah. » Et mon père s'arrêtait là. Mais avant de trouver la station, il passait par des intermédiaires. Et puis c'est là où on entendait cette friture. Bref, c'est ce qui m'a fasciné. Et j'ai dit à ma grand-mère, oh, je veux faire ce métier, je veux parler comme ce monsieur un jour dans la boîte. Et ma grand-mère qui dit, mais non, mon fils, mon petit-fils, tu ne feras pas de la radio. Mais c'est de la sorcellerie. Puisque tu vois quelqu'un qui est dans une boîte, pas grand comme un homme, et il arrive à se recroqueviller pour se cacher là-dedans. Il ne sort pas pour manger, pour boire, ni faire pipi, caca. C'est de la sorcellerie des Blancs. Et tu sais que la sorcellerie, si on veut rentrer dans le club des sorciers, il faut qu'on offre une âme, un être humain. Tu ne vas pas offrir une vie humaine pour devenir un sorcier quand même. Ok, bon, je dis, oh, d'accord, t'es sûr, mais je vais quand même faire de la radio. Je vous ai joué cette partie-là. Et ça, les années sont passées. Et au fur et à mesure, je passe, j'étais dans mon cursus scolaire, l'école primaire, le collège, le lycée. Et à la fin du lycée, j'ai compris, entre-temps, ce n'était pas un sorcier. Bien sûr, quand tu apprends la physique et la chimie, tu apprends le système de la radiotransmission, j'ai su que ce n'était pas de la sorcellerie, c'était de la technologie, point. Mmh. Et j'ai fini par dire à ma grand-mère, après le lycée, je vais passer le concours pour entrer à l'école de la radio. Et un peu découragé, cette grand-mère, mais qui m'adorait, qui voit que depuis 10 ans, je lui dis, je veux faire de la radio. Elle était convaincue que c'est quand même la sorcellerie, qu'il fallait offrir une vie humaine. Donc elle m'a appelé dans le fond de la case et m'a dit, mon petit-fils, je vois que tu persistes. Moi, je suis vieille. Quand les chefs des sorciers vont te demander d'offrir une vie humaine, il faudra offrir la mienne. Je préfère m'offrir, me sacrifier pour que tu rentres dans le club des sorciers blancs. Et j'ai dit, non, maman, grand-mère, c'est pas vrai. Ben, je ne pouvais pas la convaincre. J'ai fini par dire, ok, d'accord, quand ils vont me demander une vie humaine, je vais offrir ta vie humaine. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'école de journalisme d'Abidjan, où j'ai fait mon premier cycle. Je suis venu faire mon cycle supérieur à l'Institut national de l'audiovisuel à Paris, en région parisienne. Et en 84, je suis retourné faire de la radio dans mon pays. Et ma grand-mère était toujours vivante. Elle m'a entendu à la radio et elle n'était pas encore morte. Et c'est là où je l'ai expliqué. Tu vois, on ne donne pas une vie humaine. Et depuis, elle était apaisée. Et j'ai fait la radio, le seul métier que j'ai appris, qui est le métier certainement l'un des plus épanouissants de la Terre. Vous savez tout.
Waouh.
C'est une très belle histoire, dis donc.
Ouais. C'est magnifique.
Et pourquoi vous venez à Africa Jack chaque année?
Pourquoi est-ce que je viens à Africa Jack? Donc, je vous ai dit, à partir de 2003, j'ai quitté mon pays qui était en guerre. Je suis venu demander l'asile politique en France. On me l'a accordé. Et le seul métier que j'ai appris, moi, je suis un vrai cancre, hein, je ne sais rien faire d'autre. Ne me demandez pas de faire quoi que ce soit. Le seul métier que j'ai appris, c'est la radio. Donc, forcément, j'ai cherché du travail à la radio. Et j'ai commencé à faire de la radio à Radio France Internationale, qui est le média extérieur de la France. Et en 2005, j'ai proposé une chronique à France Inter, qu'il a acceptée. Et j'ai commencé mes premières collaborations à France Inter dans l'émission de Morgane Dudiège. L'émission s'appelait « Les arbres s'en souviennent encore ». Et ma chronique est passée l'été 2005. Et en 2006, avec mon ami et mon frère français, Vladimir Cagnolari, nous avons écrit un projet pour tenter de raconter le continent africain à travers les musiques. Pourquoi on a choisi de raconter le continent africain? Parce que en Europe en général et en France en particulier, le continent africain est très mal connu. Et c'est souvent même que les gens l'évoquent comme un pays, alors que c'est un continent de 54 États, si on ne compte pas la Somaliland. Et maintenant que le Soudan s'est divisé en deux, ce serait 56 États. Bref, et le projet de cette émission, c'était comment raconter les Afriques et sortir du prisme des médias qui ne présentent l'Afrique que quand il y a du sang. On évoque l'Afrique quand il y a une guerre. On évoque l'Afrique quand il y a une sécheresse, quand il y a une famine, quand il y a une catastrophe naturelle. Donc à travers que les aspects négatifs. Nous, on s'est dit, on peut raconter les Afriques à travers d'autres angles, à travers la science, parce qu'il y a des scientifiques en Afrique, à travers son histoire, parce qu'elle a une histoire, n'en déplaise à M. Sarkozy, l'ex-président de la France qui a dit dans un discours que l'Afrique n'était pas à faire entrer dans l'histoire, et ce qui est une aberration totale. Dès l'instant où le continent africain a quand même combattu pendant les deux guerres 14-18 et 39-45 à libérer la France du nazisme, nous pensons légitimement que c'est une façon de rentrer dans l'histoire française. Oui. Et que maintenant, quand on fait des recherches, on peut pousser très loin, que c'est quand même les savants noirs du bassin du Nil, de l'Égypte, qui ont enseigné toutes les connaissances savantes de la technologie d'aujourd'hui, que tout ce qui relève de l'astronomie, de la trigonométrie, de l'algèbre, des mathématiques, ce sont des savants noirs qui ont éduqué les savants grecs et tout le développement contemporain aujourd'hui est assis sur les connaissances dites des Grecs. Mais ce sont des savants noirs du bassin du Nil. Vous êtes jeunes, je vous en parle pas pour revendiquer avec fierté, une espèce de chauvinisme africain, mais parce que c'est important de connaître l'histoire des peuples. Vous trouverez ça, comme vous êtes des champions de l'Internet, vous cliquez Youssef, The Black of the Niles and His Family. Si vous ne vous rappelez pas du titre, vous cliquez Youssef. C'est lui, un Américain, qui a fait pendant 20 ans des recherches et qui a consigné le résultat de ses recherches dans cet ouvrage, le thèse de doctorat, qui s'appelle The Black of the Nile, les Noirs du Nil et leurs familles. Et là-dedans, il cite intégralement le savant noir qui a instruit le savant grec et à quelle date ? 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, etc., etc., etc. Donc, de pouvoir raconter ces Afriques-là, pas par chauvinisme, pour déconstruire les clichés, parce qu'il y a besoin de déconstruire les clichés. Si on ne déconstruit pas les clichés, nous restons dans les a priori et on entretient le mépris, la condescendance, et ça ne participe pas du vivre ensemble. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire de la radio à France Inter et de raconter, vous remarquerez, chaque fois je parle au pluriel en disant « les Afriques ». Parce que l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, elles sont effectivement les mêmes peuples. On a certainement des liens communs, des socles communs culturellement, politiquement, historiquement, mais elles ne se ressemblent pas forcément. On a des détails qui nous différencient, comme on a des détails qui nous différencient de la France, du Japon, des États-Unis, de Kuala Lumpur. Voilà pourquoi j'ai fait de la radio, pour contribuer, participer à la transmission des connaissances et de la connaissance des peuples. Est-ce que j'ai répondu clairement à la question ?
Oui.
Bon.
Oui. Mais du coup, la deuxième question que vous avez posée, c'était pourquoi vous veniez à Africa Jar chaque année ?
Oui, ah oui, d'accord. Pourquoi ? Well, en fait, oui, c'est vrai, c'était ça ta question. Oui. Donc voilà, dans cette, comment dire, dans cette quête de raconter les Afriques sur la radio à France Inter, et un jour, en 2007, un ami comédien invité à Kajar, il découvre ce village où... C'est une expression que j'utilise même quand je parle de ma ville qui a 300 000 habitants. Mais dès l'instant où on est dans le contexte, on va dire, rural, j'emploie le mot village. Ce n'est pas pour sous-évaluer la dimension de la ville. Bon, bref. Donc, ce comédien découvre cette ville avec son festival entièrement dédié au continent africain, avec un plateau littéraire important, avec un plateau cinématographique important et avec un plateau musical important. C'est certainement l'un des seuls festivals en France où il n'y a pas une discipline minoritaire et une majeure par rapport aux autres. Mmh. Tous les grands auteurs africains et voire français sont passés à Africa Jar, notamment Eric Orsenna, qui est l'académicien, notamment un philosophe comme Suleiman Bachir, ou un autre philosophe comme Achille Mbembe, ou un romancier comme Alema Banco, ou encore un autre romancier comme Dongala, etc., etc. Donc, il me dit... « Quoi, Solo ? Mais c'est pas possible. Cette ville, ce festival, c'est pour toi. » Autrement dit, pour l'Afrique enchantée. Et je lui dis, « Mais je suis sûr que si tu fouilles, tu vas trouver quelqu'un qui a une radio ou un reporter. Tu ramasses un bout de son, le plus pourri possible, même si t'es pas de qualité. C'est pas grave. C'est pour donner de l'illustration au sujet. Et tu me l'envoies par Internet. Moi, je vais chercher sur Internet les informations et je vais faire un focus sur le festival. » Et c'est ainsi que pour la première fois en 2007, j'ai fait un focus sur Africa Jar. Et les organisateurs d'Africa Jar n'avaient jamais démarché France Inter pour présenter leur festival. Et ce sont les auditeurs qui venaient leur dire « Oh là là, mais vous avez une touche incroyable, on parle de vous sur France Inter. » Et ils étaient étonnés. Et non, on ne connaît personne à France Inter. « Ah si, tel jour, à telle heure, on a parlé d'Africa Jar, même pendant 15 minutes, ils ont joué de la musique en parlant de ces artistes que vous passez ici. Ils ont même résumé l'histoire de l'origine d'Africa Jar. » Et ils étaient agréablement surpris. Donc, ils rappellent France Inter, on a un service qui s'appelle le service des relations avec les auditeurs. Même quand on n'a pas le téléphone direct d'un journaliste ou d'un producteur, on écrit à ce service, ou on appelle ce service et qui nous met en contact. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis en contact avec Africa Jar. Oui, monsieur, merci, mille merci, oh, c'est trop sympa de votre page. Mais non, vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai fait que faire mon travail. Vous faites votre travail en créant un festival. Moi, je fais une émission qui raconte l'Afrique et tous les territoires où on donne de la visibilité à ces Afriques-là, moi, je m'impose le devoir de donner aussi de la visibilité à cet événement comme Africa Jar. Et c'est comme ça que mon amour s'est scellé avec Africa Jar. Et l'année d'après, ils m'ont invité en 2008. Donc, ça fait la 11e édition où je viens tous les ans. Voilà pourquoi je viens à Africa Jar, parce qu'Africa Jar est l'une des plateformes qui donne de la visibilité à ces Afriques-là et de la découvrir sous différentes facettes, différentes disciplines culturelles, musique, théâtre, cinéma.
En effet. Et donc, vous avez dit que vous avez fait un petit, entre guillemets, coup de pub à Africa Jazz, mais est-ce que vous l'avez déjà fait avec, à d'autres festivals ou...
Oui, bon, je suis obligé de m'ouvrir quand même sur le reste, même si je suis tombé amoureux de Kajar. Je crois que c'est certainement ma première épouse dans les festivals que je fréquente. Oui, je suis grave amoureux d'elle. Et non, je parcours d'autres festivals, notamment les Fiesta des Sud à Marseille, où il y a toujours un volet Afrique qui est ouvert sur, dans ces festivals. Parce que Marseille aussi est une ville emblématique de l'entrée de l'Afrique. C'est quand même le lien entre la de la Méditerranée
oui.
avec l'Afrique. Il y a une forte émigration africaine à Marseille et il y a, par exemple, la population des Comores à Marseille est plus importante que la population de la capitale Moroni des Comores. Vous donnez les particularités qui font que ouais. je choisis des films et des régions pour... le contenu de l'émission. Et une ville comme Rio Loco à Toulouse, ils ont tous les ans une thématique et c'est régulièrement que la thématique revient sur le continent africain. Ils ont présenté le Maghreb. Tu vois, cette année, c'était un focus sur la rumba congolaise. Donc, ça fait une raison pour aller à Toulouse. Ou un festival comme Musique Métisse à Angoulême, qui a été la principale porte d'entrée de la plupart des grands musiciens africains connus aujourd'hui sur la scène internationale. Le premier festival qui leur a fait une ouverture pour les programmer pour la première fois en France, c'était Musique Métisse d'Angoulême. Mais vous pouvez me retrouver dans un festival comme Jazz à Vienne, parce que tous les ans, ils ont une journée dédiée aux artistes africains. Et notamment cette année, par exemple, c'était Rokia Traoré du Mali, c'était Guirma Astaté Moulaté d'Éthiopie ou Youssoundour du Sénégal. Vous voyez, il y a toujours moult raisons qui font que je choisis d'aller dans tel ou tel festival. Dès l'instant où il y a une ouverture sur le continent africain, eh bien, j'essaie de m'y retrouver pour rendre compte de ce festival. Ouais. Ou comme dans des événements de jazz, comme Jazz à Coutances, pareil, ils ont toujours une programmation très africaine et je m'y retrouve.
D'accord.
Voilà.
Hier, on a reçu Touré Konda et donc...
Alors, ils nous ont dit que les nouveaux colons venaient toujours piller, en quelque sorte, les richesses d'Afrique. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, en fait.
Oui, c'est vrai que c'est, quand on utilise des mots passéistes, ça braque les gens. Ils ont l'impression qu'on est en permanence dans une espèce de haine, de malaise et de critique malsaine. Mais je suis d'accord avec eux. Au fil des histoires qui ont lié l'Afrique au reste du monde, et tous ceux qui ont, à un moment donné, ont dominé le continent africain, hier, avant-hier, ça s'est appelé l'esclavage. Hier, ça s'appelait la colonisation. Aujourd'hui, ça s'appelle la mondialisation. Mais la démarche est toujours la même.
Oui.
On arrive en Afrique, on pille les richesses qui ne profitent pas forcément aux Africains et qui profitent aux besoins du monde occidental. Ce qu'on appelle les cultures de rente, ce sont toutes ces cultures qui ne sont pas des matières premières transformées sur place, notamment les matières premières comme le cuivre, le manganèse, l'uranium, le café, le cacao. Les prix ne sont pas décidés par les pays détenteurs de ces matières premières. Prenons un exemple concret pour illustrer par des mots une image précise. Imaginez que le boulanger de Kajar sur la place, les croissants qu'il fabrique, et qu'ils exportent dans les autres villages, ce sont les clients de ces villages-là qui décident, non, ton croissant aujourd'hui, on va l'acheter 1 €. 2 jours après, viens, ça suffit, tes conneries, ton croissant, il vaut 50 centimes. Tout ça pour vous dire que ces matières premières, c'est l'Occident qui décide du prix de vente de ces oui. Afriques-là. Et ces Afriques sont incapables de s'unir, faire un bloc commun pour faire la résistance face au système capitaliste, au système des exploitants. L'uranium qui permet de nourrir les centrales nucléaires ici en France, pour le confort des Français, il n'est pas produit en France. Il n'y en a pas dans les sous-sols français. L'essentiel est produit au Niger.
Ouais.
Et il est exploité par des Français. Que ce soit, on va citer le coltan. pour les ordinateurs, pour les tablettes, pour les... Voilà, ce portable avec lequel on est filmé pendant qu'on est en studio. Les réserves mondiales connues à ce jour, 80% des réserves mondiales se retrouvent dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Et ce qui fait que, face à ce constat de toutes ces richesses dont regorge le continent, et ce continent continue d'être pauvre, où il y a encore de la famine, où il y a encore, on a du mal à avoir des hôpitaux, à scolariser des jeunes comme vous, et qu'on sait qu'on est... Il y a un autre artiste qui a illustré cette image, il dit « L'Afrique est assise sur une malle d'or et elle fait la manche. » Et c'est tout à fait exact. Toutes les richesses dont le monde occidental a besoin, elle va les puiser en Afrique et ce n'est pas l'Afrique qui en profite. Voilà pourquoi Touré Koundé a dit « Les nouveaux colons continuent de piller l'Afrique. » Et ces nouveaux colons ne s'appellent plus les colons avec le casque colonial. Oui. Ils s'appellent aujourd'hui, je ne sais pas, Bouygues, ils s'appellent Bolloré, ils s'appellent Orange pour la téléphonie mobile, ou ils s'appellent le grand Apple, le patron de Apple, le patron de, je sais pas, les GAFA, Google, plein. Etc. Ce sont les nouveaux colons. Oui. Ça a changé de nom, mais le fond reste le même.
Et est-ce que vous êtes déjà retourné dans votre pays depuis que vous avez été censuré là-bas?
Non, voilà, pour répondre frontalement à la question, non, pour la simple raison que la loi française, quand elle vous accorde le statut de réfugié politique, elle vous offre la possibilité de vous protéger contre votre pays où votre vie a été menacée. Donc, on intègre dans la clause qu'on appelle de protection, vous ne retournez plus dans votre pays. Pour que je puisse retourner en Côte d'Ivoire, il faut que maintenant je change mon statut de réfugié politique. Même si le régime, il a changé, que tout le monde sait que le régime qui a tenté de m'assassiner, ce n'est plus ce régime, mais il faut que les données soient changées par écrit dans le texte. Et c'est ce changement que je n'ai pas encore fait qui fait que depuis 15 ans, je n'ai pas pu remettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ce qui ne m'empêche pas, je voyage. La France me donne un titre de voyage, ce qu'on appelle un passeport pour réfugiés et apatrides, qui fait que je vais partout en Afrique, mais sauf la Côte d'Ivoire. Voilà.
Et est-ce que vous voyez une différence entre la radio française et la radio ivoirienne?
Fondamentalement, il n'y a pas de différence. On a les mêmes fondamentaux de la radio, qui se résument en trois mots. Informer, éduquer, divertir. Donc c'est le même fonctionnement et les règles éthiques sont les mêmes. Si j'affirme quelque chose en radio, il faut que ce soit un fait. Les commentaires sont des tribunes. Mais si je donne le journal, il faut que je m'appuie sur des faits. Et que ce soit en Côte d'Ivoire ou en France, c'est exactement les mêmes règles éthiques qu'on respecte et les mêmes fondamentaux qu'on respecte. Maintenant, dans la forme, aujourd'hui, l'Europe... n'a plus beaucoup de temps. Il y a des milliards de choses à mettre en 24 heures. Donc les programmes sont saucissonnés, sont découpés à leur plus petite expression. Alors qu'en Afrique, aujourd'hui, vous allez trouver des tranches de radio d'une heure, de deux heures, de trois heures, où parfois on peut prendre la parole et parler pendant trois quarts d'heure avant de passer une musique. Ce qu'on ne ferait pas, par exemple, sur une radio française ou occidentale en général. Voilà pourquoi je dis, dans le fond, ça reste la même. Et dans la forme, ça peut être légèrement différent. Parce que comme toute radio, elle reflète un peu la culture de son univers dans lequel la radio s'exprime. Donc, une radio ne peut pas avoir forcément les mêmes couleurs, les mêmes brillances en Afrique que dans le monde occidental.
Donc, vous n'avez pas pu remettre les pieds en Côte d'Ivoire, mais peut-être que vous y avez gardé des engagements militants.
Pas militaire, non. Ouais. Juste militant.
Mais mais elle a raison, c'est même militaire, puisque... Et tout engagement est une forme de combat. Et le combat ne se fait pas forcément. Les militaires, c'est avec des armes. Et aujourd'hui, vous êtes, les jeunes que vous êtes devant moi, je considère que vous êtes dans un combat. Le combat d'utiliser, dans lequel vous utilisez l'arme de la radio pour informer, pour éduquer, pour faire changer les mentalités, pour faire évoluer les mentalités. Changement n'est pas peut-être le juste mot. Le fait de décider de recevoir un groupe africain pour ouvrir des questions sur leurs problématiques, vous participez de cette démarche de mieux faire connaître l'Afrique, ce qui est une forme de combat militant. Hein? Donc, ce n'est pas seulement ceux qui brandissent une étiquette. Oui, moi, je suis un militant. Non, c'est les actes qu'on pose, les choix qu'on fait dans la vie qui nous confèrent le statut de militant ou de combattant militaire.
D'accord. Et j'ai une question. Donc, oui. Ça n'a pas vraiment rapport avec donc, ce qu'on d'engagement militant et tout. C'est pourquoi avoir choisi le pseudonyme Solo Solo?
Oula, violente question. En Côte d'Ivoire, quand une question est longue à élucider, on dit violente question.
D'accord.
Solo, c'est le diminutif de Suleiman. C'est un prénom plutôt moyen oriental. Et bien sûr, que vous savez, l'Afrique a subi toutes les formes d'agression, dont les agressions religieuses. Le catholicisme, le protestantisme, l'islam sont arrivés sur ce continent par le glaive et le feu. C'est par la force. Sinon, les Africains, comme tous les peuples, à la base, les Français, avant la chrétienté, pareil, ils étaient de croyance, ce qu'on appelle grossièrement animiste. Parce qu'on reste convaincu que cette espèce d'inconnu que nous avons, nous les humains, qui est une interrogation angoissante. On voulait chacun, cet esprit-là, donc, se manifeste à travers tous les éléments de la nature. L'eau, le feu, le vent, la lumière, les arbres, le caillou, dans nos croyances, tout cela est animé de l'esprit divin, d'où le nom animiste. Voilà pourquoi on dit, on avait des croyances, nous avons des croyances animistes. Et que dans ces croyances-là, il n'y a pas le dictat d'une hiérarchie. On n'a pas de pape, on n'a pas de prêtre, on n'a pas d'évêque. Où on n'a pas d'imam, on n'a pas un lieu où il faut aller en pèlerinage en donnant de l'argent à l'Arabie Saoudite qui s'engraisse sur notre dos. On ne va pas à Rome pour engraisser le pape. Vous avez remarqué, le pape, il a toujours une belle chevalière énorme en or, en diamant, les croix en or. Et pendant ce temps, les oies, ils crèvent la dalle. Vous voyez ? Donc, l'animisme, il n'y a pas ce type de hiérarchie. Toi, ton père, ta mère, vous décidez du lieu de votre culte. Parce qu'on a besoin de donner une réponse à cet inconnu qui est le trou noir, qui est après la mort, qu'est-ce qu'il y a? L'homme a donc inventé la spiritualité pour répondre à cette grande question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et dans l'animisme, on choisit le lieu, on choisit son Dieu. Ça peut être un arbre, ça peut être un rocher, ça peut être un cours d'eau, et point barre. Et bref, pour écraser cet animisme, cette croyance, les catholiques, les musulmans, les protestants après sont arrivés, ils ont dit, oh, vos croyances, c'est des croyances sataniques. Nous, on va vous expliquer. Dieu a créé tous les hommes égaux. Mais c'est notre façon de le concevoir qui est la vraie croyance. Mais on peut le piéger, dire, mais si Dieu nous a créés égaux, ça veut dire qu'il nous a donné la même intelligence à tous pour qu'on imagine son existence, chacun à sa façon. Mais comment pouvez-vous donc m'expliquer que ce même Dieu qui nous a créé égaux, qui nous a donné la même intelligence, décide subitement, brusquement, tout à coup, que vous, votre façon de le concevoir est la meilleure? Mais sauf qu'eux, ils avaient les armes. Et ils nous ont imposé leur religion par les armes. Vous voyez, parfois, je prends des longs détours pour élucider, répondre à une question. Voilà comment l'islam est arrivé jusque dans ma savane du nord, la Côte d'Ivoire. Mon père s'est islamisé et il a décidé de me donner un prénom moyen oriental, Suleiman. Et en Afrique occidentale, tous ceux qui portent le prénom Suleiman, le diminutif dans la famille, tout le monde t'appelle Solo. Et il a même trouvé une correspondance de celui qu'il a islamisé pour transformer son nom patronymique en Koulibaly. Et à la base, le nom patronymique de ma famille, c'est Soro. Et quand, dans ma quête identitaire et dans ma façon militante de réduire les dégâts collatéraux de cet impact de l'islam, j'ai décidé de mettre sur la place publique l'appellation Soro. Et du coup, j'ai appelé mon nom de journaliste et devenu Soro Solo. Pour répondre à la question, d'où vient Soro Solo?
Grande histoire, encore une fois.
Voilà.
Alors, on va toucher à la fin de l'interview. Et on voudrait vous demander si vous accepteriez de nous faire un jingle pour la 93.2, la Radio Franca.
93.2
FM. Parce qu'on est fan de vos jingles sur France Inter.
93.2. 93.2 Radio Franca. C'est ça?
Ouais.
Genre, je dis. On va dire. Hein? Alors, bienvenue sur Radio Franca 92.3. Ah, attends, Ok, ça marche. Allez, c'est reparti. Bienvenue sur Radio Franca 93.2, la radio de l'avenir.